Chapitre 4. Moins nous aimons une femme, plus nous avons chance de lui plaire, et plus sûrement nous la faisons tomber dans nos filets. Ainsi parlait jadis le froid libertinage, qui se glorifiant d'avoir réduit l'amour en science, sonnait sa propre fanfare, et croyait pouvoir être heureux sans aimer. Mais ce grave amusement est digne des vieux singes, imitateurs de ce bon vieux temps trop vanté. La gloire des Lovelace est tombée en décrépitude avec celle des talons rouges et les solennelles perruques. Qui ne s'ennuierait de feindre toujours, de répéter différemment la même chose, de prouver gravement ce que tout le monde sait, d'entendre les mêmes répliques, de détruire des scrupules qui n'existent plus et qu'il faut faire naître dans une âme de 15 ans? Qui ne se fatiguerait des menaces, supplications, fins de terreur, des petits billets de 6 pages, des ruses, des caquets, des bains, des larmes, de la surveillance des tantes et des mères et de la pressante amitié des maris? Ainsi pensait Onéguine. Dans la première jeunesse, il avait été victime de passions effrénées et d'erreurs irrésistibles. Gâté par les facilités de sa vie, enchanté sans raison, désenchanté sans motif, tourmenté à petit feu par le désir, tourmenté bien plus cruellement par le succès éphémère, poursuivi dans le monde et dans la solitude par l'éternel murmure des reproches de son âme, s'efforçant d'étouffer le bâillement par un rire, voilà comment il avait tué 8 années, voilà comment il avait flétri la fleur de sa vie. Il ne s'éprenait plus des beautés du monde. Il courtisait ce qui lui tombait sous la main. On lui refusait, ou il s'en consolait sur le champ. On le trahissait, ou il était enchanté de reprendre haleine. Il recherchait la société des femmes sans entraînement et les quittait sans regret, se souvenant à peine de leur tendresse ou de leur cruauté. C'est ainsi qu'un visiteur indifférent vient faire sa partie de whist. Il se met à la table, le jeu fini, il quitte la maison, s'endort tranquillement dans son lit et le lendemain matin ne sait pas lui-même qui fera sa partie le soir. Mais à la réception de l'épître de Tania, Onéguine fut vivement touché. Le langage de ces jeunes rêveries remua toutes ses fibres comme on remue un essaim d'abeille. Il se souvint de la pâleur et de l'expression triste de la jeune fille. Son âme se plongea un instant dans un songe doux et sans souillure. Son ancienne fougue se réveilla aussi, mais il ne voulut pas tromper la confiance de ce cœur innocent. Et maintenant, suivons-le au jardin où Tatiana vient de le rencontrer. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes. Puis Onéguine s'approcha d'elle et dit « C'est vous qui m'avez écrit, ne le niez pas. J'ai lu ces aveux charmants, ces épanchements candides. Votre franchise me touche. Elle a fait parler dans mon âme une voix qui ne s'y taisait depuis bien longtemps. Mais je ne veux pas faire votre éloge, je veux payer votre sincérité d'un aveu non moins sincère. Recevez ma confession, je me soumets à votre sentence. Si j'avais voulu borner ma vie au cercle de la famille, si un destin bienveillant m'avait ordonné d'être mari et père, si, ne fût-ce que pour un instant, j'avais pu être encharbé par le tableau du bonheur domestique, croyez-moi, je n'aurais pas cherché d'autre compagne que vous. Je vous dirais, sans fadeur sentimentale, qu'ayant trouvé en vous l'idéal de mes premières années, je vous aurais certainement offert de vous associer à mes tristes jours, je vous aurais accepté comme un garant de tout ce qui est beau, et j'aurais été heureux, enfin, comme j'aurais pu. Mais je ne suis pas créé pour le bonheur. Mon âme et lui sont étrangers l'un à l'autre. Toutes vos perfections sont vaines, j'en suis indigne. Croyez-moi, c'est la voix de ma conscience qui parle en ce moment. Un mariage entre nous n'était qu'un supplice. J'aurais eu beau vous aimer, en m'habituant à vous, j'aurais cessé de vous aimer. Vous pleureriez, vos larmes ne toucheraient pas mon cœur, elles ne feraient que l'aigrir. Jugez vous-même quelle rose vous aurez préparé l'hymen, et pour bien des jours peut-être. Que peut-il y avoir de plus triste au monde qu'un ménage où la pauvre femme se désespère de l'indignité de son mari, passant seule tous ses jours et toutes ses soirées, où le mari, ennuyé, tout en reconnaissant le mérite de sa femme et maudissant pourtant le sort, est toujours maussade, silencieux, colère et froidement jaloux. Tel je suis. Est-ce là l'homme que cherchait votre âme, aussi pure qu'ardente, lorsque vous m'écriviez avec tant de naïveté et de grâce? Je ne veux pas croire qu'un pareil sort vous soit réservé pour la sévère destinée. Il n'y a pas plus de retour aux illusions qu'aux années. Je ne rajeunirai plus mon âme. Je vous aime d'une affection de frère et peut-être plus tendrement encore. Écoutez-moi donc sans colère. Une jeune fille remplace plus d'une fois ses rêveries par d'autres rêveries. Ainsi un jeune arbre change ses feuilles à chaque printemps. Le ciel l'a voulu et vous aimerez de nouveau. Mais apprenez à vous dominer. Ce n'est pas chacun qui vous comprendra comme moi. Une irréflexion conduit aux catastrophes. Ainsi prêchait Onéguine. N'apercevant rien à travers ses larmes, respirant à peine, ne répondant rien, Tatiana l'écoutait. Il lui offrit son bras. Elle s'y appuya avec une résignation triste et, comme on dit, machinalement. Elle baissa la tête et ils retournèrent à la maison sans mot dire, en faisant un détour par le potager. Ils revinrent ensemble au salon et personne ne sembla prendre garde à leur absence. La liberté du village a ses heureux droits, tout aussi bien que la pédantesque pruderie de Moscou. Vous avouerez, mon lecteur, que notre ami s'était conduit d'une façon fort chevaleresque avec la pauvre Tatiana. Et ce n'était pas pour la première fois qu'il montrait une véritable noblesse d'âme, quoique la malveillance humaine ne lui ait épargné. Ses ennemis, ses amis, oh, c'est peut-être la même chose, l'avaient accommodé de toutes les façons. Chacun a ses ennemis dans ce monde. Mais Dieu nous garde de nos amis. Oh, les amis, les amis! Ce n'est pas sans raison que je me souviens d'eux. Alors, pourquoi? Oh, rien, rien. Je tâche de laisser dormir en moi les pensées sombres et malsaines. Je me borne à remarquer, entre parenthèses, qu'il n'y a point de calomnie méprisable, mise au monde par un coquin dans son grenier et choyé par la canaille du grand monde, qu'il n'y a point de sotte ineptie, point d'épigramme de carrefour, que votre ami, le sourire sur les lèvres dans un cercle de gens bien élevés, sans le moindre sentiment de malignité, ne répète 100 fois par hasard. Du reste, il se fait votre champion, il vous aime tant, comme s'il était de votre famille. Respectable lecteur, toute votre famille se porte-t-elle bien? Permettez, vous désirez peut-être savoir de moi quelle espèce de gens sont les parents. Ce sont des gens que nous sommes contraints de caresser, d'aimer, d'estimer de toute notre âme, à qui, d'après la coutume populaire, nous devons rendre visite le jour de Noël, ou bien écrire par la poste des lettres de félicitations, pour que tout le reste de l'année, ils ne songent point à nous. Que Dieu leur donne donc de longs jours. Vous me direz que l'affection des femmes est plus sûre que l'amitié et que la parenté, et que vous conservez certains droits sur cette affection, même après que les désastres vous ont frappé. C'est possible. Mais le tourbillon de la mode, le caprice inhérent à leur nature, le torrent de l'opinion du monde, comment leur résister quand on est léger comme une plume? En outre, l'opinion d'un époux doit être toujours respectable aux yeux d'une femme vertueuse, de sorte que votre fidèle ami peut être détourné de vous en un clin d'œil. Quant à l'amour proprement dit, pouf, c'est la plaisanterie du diable. Qui donc faut-il aimer? À qui croire? De qui n'attendre aucune trahison? Qui mesure obséquieusement toutes les choses et toutes les paroles de ce monde sur notre maître? Qui ne répand point de calomnie contre nous? Qui se préoccupe constamment de nos intérêts? Pour qui nos défauts ne sont-ils pas désagréables? Qui ne nous ennuie jamais? Sans chercher un vain idéal, sans perdre votre peine à cette recherche, aimez-vous vous-même, cher lecteur? Quel fut le résultat de l'entrevue? Hélas, il n'est pas difficile de le deviner. Les souffrances insensées de l'amour ne cessèrent point de déchirer cette jeune âme avide d'affliction. La pauvre Tatiana ne brûle que plus fort d'une passion sans espoir. Le sommeil fuit sa couche. Santé, fleurs et douceur de la vie, sourire, calme virginal, tout a disparu comme un vain songe. C'est ainsi que les ténèbres d'un orage obscurcissent quelquefois le jour qui vient à peine de naître. Hélas, Tatiana se flétrit, pâlit, s'éteint et doit se taire. Rien ne l'occupe, rien ne la touche. En hochant gravement la tête, tous les voisins chuchotent entre eux. Il est temps, mais il est bien temps que cette fille se marie. Mais c'est assez. Je veux sans délai me réjouir l'imagination par le tableau d'un amour heureux. Et vous, ami, si je me suis trop laissé aller à la compassion que m'inspire ma pauvre enfant, excusez-moi, je l'aime tant. D'heure en heure, captivé davantage par les charmes de la jeune Olga, Vladimir s'abandonnait pleinement à son doux servage. Il est perpétuellement avec elle. Quand vient le crépuscule, ils sont assis dans sa chambrette. Aux premières lueurs matinales, ils se promènent au jardin, la main dans la main. Et pourtant, ivre d'amour, c'est à peine si dans le trouble d'une tendre pudeur, Vladimir ose parfois, encouragé par le sourire d'Olga, jouer avec une boucle de cheveux déroulée ou déposer un baiser sur le pan de sa robe. Quelquefois, il lit à Olga un roman moral où l'auteur se pique de dépeindre la nature mieux que Chateaubriand, et cependant il saute en rougissant deux ou trois pages de vaines divagations dangereuses pour le cœur des jeunes filles. D'autres fois, dans quelques recoins bien éloignés, ils se tiennent, les coudes appuyés sur la table, devant un jeu d'échecs, et Lenski, plongé dans ses rêveries, pense à tout avec un de ses pions. Il rentre à la maison, et là aussi son Olga l'occupe. Pour elle, il orne assidûment les pages volantes d'un album. En traits à la plume, légèrement coloriés, il y dessine tantôt des vues champêtres, tantôt une pierre sépulcrale, le temple de Cypris, une tourterelle perchée sur une lyre. Ou bien encore, au-dessous des autres inscriptions, il dépose un tendre vers, monument silencieux d'une rêverie soudaine, trace rapide d'une pensée fugitive qu'on retrouve ensuite après de longues années, immobile et figé. Sans doute, vous avez vu plus d'une fois l'album d'une demoiselle de province que ses compagnes ont barbouillé sur toutes les pages du commencement à la fin. C'est là que, sans respect de l'orthographe, des vers sans mesure, raccourcis, rallongés, venus par tradition, sont inscrits en témoignage d'inaltérable amitié. Sur la première page, on lit ces mots « Qu'écrivez-vous sur ces tablettes ?» Puis l'inscription « Tout à vous, Annette !» Et au bas de la dernière page, « Qui plus que moi aime-toi, qu'il écrive plus loin que moi ?» Sur ces pages, vous êtes sûr de trouver deux cœurs, une torche et des guirlandes. Vous êtes sûr de lire des serments d'amour jusqu'au-delà des portes du tombeau. Quelque enfant de Mars, poète dans un régiment de ligne, y a paraphé un petit vers scélérat. Eh bien, ami, j'aurais été fort aise d'écrire, moi, dans cet album, persuadé que chacun de mes enfantillages, offert de bon cœur, aurait mérité un regard indulgent, et qu'on ne s'aviserait pas ensuite, avec un visage grave et un sourire narquois, d'examiner si j'ai su mettre ou non de l'esprit dans mes bêtises. Mais vous, tome dépareillé de la bibliothèque de Satan, vous, magnifiques albums, tourments des versificateurs en renom, vous, rapidement embellis par le pinceau magique de Tolstoï ou par la plume de Baratinsky, que la foudre de Dieu vous écrase. Quand une belle dame me présente son in quarto, un tremblement de colère me saisit et je sens une épigramme sourde au fond de mon âme. Eh bien non, misérable, tu vas lui écrire un madrigal. Ce ne sont pas des madrigaux que Trasensky dans l'album de la jeune Olga. Sa plume est guidée par l'amour et ne sait pas briller par de froids jeux d'esprit. Dans la simplicité de son cœur, il va jusqu'à répéter ce qu'il entend dire ou ce qu'il remarque d'Olga. Quant à ses élégies, oh, elles coulent à flot. C'est ainsi que toi, Lesikoff, l'inspiré, dans les élans de ton cœur, tu chantes Dieu, c'est qui ? Tellement qu'un jour le recueil précieux de tes élégies te dévoilera ta propre histoire. Mais silence, qu'entendons-nous ? Un sévère critique nous ordonne de fouler aux pieds la maigre couronne de l'élégie. À nous autres faiseurs de vers, il crie comme un général à la parade « Assez pleuré, assez gémi, sur l'irréparable passé, basta, chantez autre chose !» Oh, tu as raison, ami, et sans doute tu vas nous montrer du doigt le masque et le poignard tragique en nous ordonnant d'y renouveler le capital épuisé de nos pensées, n'est-ce pas ? Point du tout, point du tout. Écrivez des odes, messieurs. Écrivez comme au temps de notre grande époque, comme le prescrivent les anciennes règles. Quoi, rien que des odes pour les occasions solennelles? Rappelle-toi, critique, ce qu'a dit à ce propos l'ingénieux auteur des commérages. Et avoue-le, ce même auteur t'est-il plus supportable que ces rimeurs mélancoliques par toi si décriés? J'en conviens, mais votre romantisme est vide, vain, pitoyable, tandis que le but de la poésie doit être noble et élevé. Bon, je pourrais réfuter cet argument, mais je me tais, ne brouillons pas deux siècles. Épris de la liberté autant que de la gloire, agité d'inspirations incessantes, Vladimir aurait fort bien pu écrire des odes. Mais Olga ne les aurait pas lus. Il tenait encore plus à lui lire ses œuvres qu'à les faire, car on dit qu'il n'est pas dans le monde de jouissance plus grande que celle d'un auteur modeste et amoureux qui peut lire les produits de ses rêveries à celle qui en est l'objet, une beauté que ses chants jettent dans une agréable mélancolie. Il est heureux, le poète, mais peut-être pense-t-elle à autre chose. Pour moi, je ne lis les productions de ma lyre harmonieuse qu'à ma vieille nourrice, la fidèle compagne de ma jeunesse. Ou bien, après un maussade dîner, si j'attrape par le pan de l'habit quelque voisin que m'a livré son sort malencontreux, je l'emprisonne dans un coin, je l'y étouffe de ma tragédie. Ou bien encore, et croyez que je ne plaisante pas, tout gonflé de rimes, errant le long de mon étang, j'effraie des éclats de ma voix une bande de canards sauvages. À peine ont-ils entendu le doux son de mes strophes qu'ils s'empressent de quitter ces rivages. Et Onéguine, ah, à ce propos, frère, je vous demande un peu de patience, et je vais décrire en détail ses occupations de chaque jour. Vous savez qu'il vit en anachorète. En été, il se lève à 6 heures du matin et s'en va en toilette légère à la rivière qui coule au bas du tertre de sa maison. Il traverse à la nage cet Hellespont, ni plus ni moins que le chantre de Gulnare. Puis il boit son café en parcourant avec négligence un journal aussi mal informé qu'attardé dans sa publication. La promenade, la lecture, un sommeil profond et salutaire, l'ombre des bois, le babil des eaux, quelquefois le jeune et frais baiser d'une blanche fille aux yeux noirs, le galop d'un cheval fougueux et docile au frein, un dîner assez délicat, une bouteille de vin limpide, et surtout la solitude, le silence. Voilà la vie d'Onéguine. Et petit à petit, il y prit goût, laissant dans son bien-être insouciant couler les belles journées de soleil, oubliant et la ville et les amis qu'il y avait laissés et l'ennui de ses fêtes. Mais notre été septentrional, cette caricature de l'hiver du midi, passe en un moment. Chez nous, personne n'en doute et personne ne l'avoue. Déjà, le ciel annonçait l'automne. Le soleil brillait moins fréquemment, le jour s'accourcissait, la mystérieuse toiture des bois se dépouillait avec un bruit lugubre, des brouillards se roulaient sur les champs, les caravanes d'oies criardes se dirigeaient vers le sud, la plus triste époque de l'année s'approchait, novembre était sur le seuil de la porte. L'aurore se lève au milieu d'une froide brume. Le bruit du travail a cessé dans les champs. Avec sa louve affamée, le loup sort sur les chemins de traverse. Les flairant de loin, le cheval renacle, et le voyageur prudent se lance au galop quand il faut monter la colline. Le berger ne fait plus sortir les vaches de l'étable. Vers midi, sa trompe ne les appelle plus en rond autour de lui. En chantant dans son humble isba, la jeune fille file son lin, et l'ami des longues nuits d'hiver, la Luchina, pétille devant elle. Et voici que, étendant au loin sur les campagnes un glacis d'argent, les premières gelées sont écloses. Je parie que mon lecteur attend la rime rose. Eh bien, qu'il la prenne et que tout soit dit. Plus coquette que le parquet ciré d'un salon élégant, brille la petite rivière couverte d'une récente couche de glace. La bruyante population des jeunes gars y trace des raies avec les patins sonores. Une lourde oie aux pattes rouges, s'étant proposée une promenade sur l'étang, glisse et tombe. Les premiers flocons de neige papillonnent gaiement dans l'air et se déposent sur le rivage en étoiles légères. Que faire à cette époque au village? Se promener? Les champs fatiguent la vue par leur nudité monotone. Traverser au galop les mornes steppes? Le cheval, s'accrochant à la neige traîtresse par son fer émoussé, menace de broncher à chaque pas. Reste sous ton toit solitaire, lis. Voici De Prade, voici Walter Scott. Tu ne veux pas lire? Eh bien, vérifie tes comptes. Gourmande ton intendant ou prends un verre. et la longue soirée finira par s'écouler. Demain sera la même chose, et de la sorte tu passeras un fameux hiver. » Candide imitateur de Childe Harold, Onegin s'enferma dans une paresse mélancolique. Dès ce réveil, il se plonge dans un bain glacé, puis s'armant d'une queue émoussée tout le long du jour, il joue avec lui-même une partie de billard à deux billes. Mais la nuit arrive, le billard est abandonné, une table couverte se dresse devant la cheminée, Onegin attend, et voilà que Lenski arrive avec sa troïka de chevaux fleurs de pêcher. « Vite, conserve le dîner !» Aussitôt, pour le poète, le vin béni de Mouette ou de la veuve Cliquot est apporté dans une bouteille hérissée de frimas. C'est la source d'Hippocrène. Son jet pétillant et son écume brillante, si semblables à l'amour et à la jeunesse, m'ont toujours séduit. Vous souvenez-vous, ami, comment je le payais jadis de mon pauvre denier ? Hélas, son flot magique a fait commettre bien des folies, mais aussi combien de vers, d'heureuses plaisanteries, de gaies discussions et d'illusions plus gaies encore. Mais aujourd'hui, sa bruyante écume trompe mon estomac et je lui préfère le sage Bordeaux. J'ai abandonné l'Aï, il est semblable à une maîtresse vive, séduisante, pleine d'éclamer, capricieuse et futile. Tandis que toi, à Bordeaux, tu es pareil à un ami, qui, toujours et partout bon camarade, même dans la tristesse et le malheur, est prêt soit à nous rendre service, soit à partager nos tranquilles plaisirs. Donc vive le Bordeaux, notre véritable ami. Le feu s'est éteint. Le charbon doré est à peine recouvert d'une poudre de cendre. Une imperceptible vapeur se balance au-dessus et de la cheminée vient à peine un souffle de chaleur. La fumée de deux pipes s'en va par l'ouverture et une dernière coupe bruit encore au milieu de la table. Doucement se glisse l'obscurité. Que j'aime le bavardage intime et l'habit calvaire de vin à ce moment qu'on a nommé, je ne sais pourquoi, entre chien et loup. Les amis causent en ce moment. Eh bien, que font les voisines? Que fait Tatiana et la mutine Olga? Meurs encore un demi-verre assez. Ah bien, si, toute la famille se porte bien, oui, elle te salue. Ah, mon cher! Que les épaules d'Olga sont devenues belles, quelle taille et quelle âme! Oh, il faut que nous allions chez eux un jour, tu leur feras grand plaisir. Sans cela, juge toi-même. Tu t'y es montré une couple de fois, et puis on ne voit plus le bout de ton nez. Mais à propos, quel imbécile je suis! Tu es invité pour samedi prochain. Moi? Oui, toi! C'est le jour de la fête de Tatiana. C'est Olga et la maman qui te font cette invitation. T'as pas de raison pour ne pas t'y rendre. Bon, mais il y aura là un tas de monde, un ramassis de toutes sortes de figures. Non, personne, je t'assure, nous serons en famille. Viens, fais-moi cette grâce. Oh, allons, je veux bien. Tu es charmant. En disant ce mot, il vida son verre en l'honneur de la voisine et se remit à parler d'Olga. Oh, c'était un vrai amoureux. Il était heureux et gai. Le terme fortuné avait été fixé à 2 semaines. La couronne de myrte, les charmes discrets du ménage, attendaient ses transports. Les soucis et les ennuis de l'hymen ne lui apparaissaient pas, même en rêve. Tandis que nous autres, ennemis de cette divinité, nous ne voyons dans la vie domestique autre chose qu'une série de tableaux monotones, un roman dans le genre d'Auguste Lafontaine, mon pauvre Lenski. Son cœur était créé pour cette vie. Il était aimé, il le croyait au moins, il était heureux. Fortuné, 100 fois fortuné celui qui sait croire, qui domptant son esprit sceptique se repose dans la voluptueuse insouciance de son cœur comme un voyageur aviné dans une auberge. Ou bien, si vous voulez une plus gracieuse comparaison, comme un papillon qui s'est plongé dans une fleur de printemps. Mais digne de pitié est celui qui prévoit toujours, à qui la tête ne tourne jamais, qui finit par détester chaque parole, chaque geste, dans la traduction qu'il s'en fait à lui-même, celui dont le cœur paralysé par l'expérience a perdu la force de s'oublier.